Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on a une source un peu particulière. Ce n'est pas un livre, pas un article de presse national, c'est quelque chose de bien plus local et je trouve de vraiment passionnant. Le bulletin numéro 76 du Carto Club Aveyronnais. Ça date de janvier 2021 et à l'intérieur, il y a un dossier remarquable. Il est signé Raymond Duplan et s'intitule Les brigades de gendarmerie de l'Aveyron de 1720 à 1975. Et il faut aussi saluer Guy Mazard, le rédacteur en chef, parce que la mise en page est vraiment soignée, c'est plein de documents d'époque.
Absolument. Et c'est ce qui rend ce document si précieux. En fait, notre objectif en plongeant dedans, ce n'est pas juste de faire l'histoire administrative de la gendarmerie, c'est de comprendre comment, sur plus de 2 siècles et demi, une institution nationale a vraiment vécu au rythme d'un département comme l'Aveyron. Grâce au travail de Raymond Duplan, on va découvrir la vie, les risques, la bravoure de ces hommes. On passe de l'uniforme un peu anonyme à des héros du quotidien, avec des histoires qui sont parfois lumineuses et parfois franchement tragiques.
Alors commençons par planter le décor. L'article nous rappelle le point de départ légal. C'est la fameuse loi du 28 Germinal an 6.
Oui, 1798, c'est ça. Et c'est elle qui donne la mission fondamentale de la gendarmerie. Assurer, je cite, la sûreté des campagnes et des grandes routes.
C'est un peu l'acte de naissance de la gendarmerie moderne, avec cette idée de maillage du territoire.
C'est exactement ça. Et l'article montre bien que ce maillage, il a mis du temps à se tisser. Les chiffres que donne l'auteur sont saisissants. Si on regarde en 1720, sous l'Ancien Régime, on a la maréchaussée du Rouergue. Et là, on parle de seulement 6 brigades à cheval. 6.
6. C'est minuscule pour tout le département, non?
Ah, c'est infime. Pour un territoire immense, très rural, avec des routes difficiles, c'était une présence plus symbolique qu'autre chose.
On imagine des villages qui ne voyaient un uniforme que très rarement. Et puis, il y a ce bond spectaculaire que décrit l'article. Presque 2 siècles plus tard, en 1903, on atteint 59 brigades.
59, oui. On passe de 6 à 59.
Ce n'est plus un symbole, là. C'est un véritable quadrillage du territoire.
Exactement. Le mot quadrillage est parfait. Ça reflète une vraie volonté de l'État d'être présent partout. Et ce qui est fascinant, c'est la répartition que l'article détaille pour cette année 1903. On a 29 brigades à cheval et 30 à pied.
Ah, c'est presque moitié-moitié. On est à un point de bascule.
Oui, tout à fait. Le cheval, qui était indispensable pour les longues distances, commence à céder du terrain. Les brigades à pied, elles, sont plus adaptées pour surveiller les bourgs ou les zones industrielles qui commencent à naître, comme dans le bassin de Cazéville.
Donc, en fait, l'organisation des brigades nous raconte en filigrane l'évolution de la société aveyronnaise. Moins de grands trajets, plus de présence locale dans les bassins de vie.
C'est ça. L'institution s'adapte au terrain, au sens propre du terme. Et l'article suit cette évolution jusqu'en 1975. Là, il ne reste plus que 47 brigades territoriales. Elles sont devenues mixtes, c'est-à-dire motorisées.
La fin du cheval, la fin des brigades à pied. Oui, et chaque réorganisation est le miroir d'un changement plus profond. L'exode rural, l'amélioration des routes, l'arrivée du téléphone, puis de la radio. C'est passionnant de voir comment des chiffres peuvent raconter une histoire si vivante. Mais ce qui m'a vraiment le plus marqué dans l'article, c'est quand on quitte les statistiques pour parler des hommes. Derrière chaque brigade, il y a des destins. Et l'auteur nous en livre quelques-uns.
Oui, et c'est là que le document devient vraiment poignant. Raymond Duplan a sorti des archives des récits qui illustrent le quotidien de ces gendarmes. Un quotidien fait de courage ordinaire. On peut y voir plusieurs facettes. D'abord, il y a le secours aux personnes, face aux accidents ou aux éléments naturels.
Je pense tout de suite à l'histoire du gendarme Rivière, à Aubin. On est en 1886, il sauve 2 enfants de la noyade dans le Lot. L'article précise « dans des circonstances très périlleuses ». On n'a pas les détails, mais on imagine la scène, le courant, le froid. Ce n'est pas une interpellation, c'est de la bravoure civique pure.
Et il n'est pas le seul. Il y a le maréchal des logis Battesti à Entraigues, en 1881. Un incendie ravage une maison, un vieil homme est coincé au 2e étage. Lui, il n'attend pas. Il trouve une échelle, il monte, il entre par la fenêtre. Et au moment où il attrape l'homme pour le sortir, le plancher s'effondre juste derrière eux.
Incroyable! Il le sauve à une seconde près, littéralement.
Oui. Un acte qui lui a valu une médaille d'honneur. On comprend pourquoi.
Et il y a aussi ce gendarme, Cornuet Jules, Saint-Géniès d'Olt. Lui, en 1883, il descend dans un puits de 7 mètres.
7 mètres, oui.
Pour remonter un homme qui était tombé.
C'est une autre forme de courage, plus froid peut-être, mais tout aussi risqué. Ce qui frappe, c'est que le gendarme de campagne, c'était aussi le premier secours, le recours ultime quand il y avait un pépin.
Absolument. Mais il y a l'autre versant, plus sombre, le risque face à la violence. L'article ne l'évite pas.
Il y a cette mention très sobre, très terrible, sur le brigadier Joseph-Louis Ratier à la Salvetta Perales, en 1856. Il est, je cite, « blessé mortellement d'un coup de feu dans l'exercice de ses fonctions ». En une phrase, tout est dit.
Le danger permanent.
Voilà. L'intervention à Decazeville en 1934, elle est glaçante aussi. Les gendarmes Ferrier et Mouly apprennent qu'un repris de justice décrit comme très dangereux vient de tuer une femme. Ils le traquent et ils le retrouvent le soir même.
Oui, l'article dit qu'ils le surprennent à la tombée de la nuit dans la cour d'une ferme.
À la tombée de la nuit, on imagine la tension. À l'époque, ils n'avaient que leur courage et leur connaissance du terrain. Pas d'experts, pas de test ADN.
Vous touchez un point essentiel. L'interpellation à cette époque, c'est un face-à-face. Souvent physique et extrêmement risqué. Ferrier et Mouly ont maîtrisé l'homme avant qu'il ne puisse utiliser son arme. C'est un mélange d'audace et de sang-froid. Ils n'avaient pas de gilet pare-balles, pas de radio pour appeler des renforts. Leur seule technologie, c'était leur expérience.
Mais parfois, même l'expérience ne suffit pas. L'histoire la plus bouleversante de l'article, c'est sans doute celle du gendarme Paul Andrieux.
Oui, elle est terrible. L'auteur nous la raconte en détail. On est en 1954. Paul Andrieux est un gendarme respecté, à quelques mois de la retraite. Il verbalise un individu pour une simple infraction routière. Moins d'une heure plus tard, cet homme le retrouve sur la place du village, il sort une arme et il l'assassine. De sang-froid.
C'est effroyable. Une vengeance absurde pour un motif dérisoire. Et l'auteur ajoute un détail qui rend ça encore plus tragique.
Oui. Il précise que Paul Andrieux a été proposé à titre posthume pour la médaille de la gendarmerie nationale. La citation le qualifiait de « martyr du devoir ».
Mais,
l'auteur ajoute, il n'obtiendra jamais cette décoration.
C'est une injustice qui s'ajoute au drame. Une double peine, en quelque sorte.
Oui, on sent que ce détail a beaucoup touché l'auteur. Et il nous le transmet. C'est ça la force de cet article. Il ne liste pas juste des faits. Il leur redonne leur poids humain. Et ce poids, on le retrouve aussi quand les gendarmes sont confrontés aux grands conflits du XXe siècle. Leur service ne s'arrêtait pas aux frontières de l'Aveyron.
Comme le gendarme François Cabantous, de Cransac, pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1915, mais pas au combat direct, sous un bombardement, alors qu'il portait secours à des soldats blessés.
Exactement. Sa citation, qui est reproduite, dit qu'il a trouvé une mort glorieuse. C'est le langage de l'époque, cette façon de magnifier le sacrifice.
Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un engagement tout aussi total, mais avec une autre dimension.
Oui, celle du choix personnel face à l'occupation. L'article met en lumière le lieutenant Michel Vimard, d'Espalion. Il rejoint le maquis, il prend les armes contre l'occupant et il est blessé mortellement au combat. Sa citation est d'une force incroyable, presque philosophique.
Laquelle ?
A fait délibérément le sacrifice de sa vie. Ce n'est plus une mort glorieuse, c'est un acte de volonté. Un acte conscient. Et il n'était pas seul. L'auteur précise que des brigades entières, comme celle de Nocel, ont rejoint en bloc les forces françaises de l'intérieur.
Ça montre bien que ces gendarmes n'étaient pas que des fonctionnaires. C'étaient des citoyens engagés.
Tout à fait. Et l'article intègre aussi habilement l'histoire de la gendarmerie mobile, dont une unité était à Rodez.
Oui, c'est vrai.
Il cite le cas du garde-lion battu, tué lors d'un accrochage en Tunisie en 1952. Sa citation le décrit comme « courageux et plein d'allant ». Ça nous rappelle que les risques étaient partout, en Aveyron, sur le front de 14-18 ou dans les troupes de la décolonisation. Le fil rouge, c'est l'exposition permanente au danger.
On a parlé de ce qu'ils faisaient, des risques qu'ils prenaient, mais l'article nous donne aussi un aperçu de leur vie quotidienne, de ce à quoi ils ressemblaient. Et ça, c'est grâce aux cartes postales anciennes.
Ah oui, c'est la grande force d'une publication qui vient d'un club de cartophiles. Ces images sont de vraies fenêtres sur le passé. Il y en a une qui est particulièrement saisissante, une carte postale de Vezin de Lévézou. Elle montre des gendarmes dans ce que l'article appelle leur tenue d'écurie.
Alors attendez, la tenue d'écurie, c'est là qu'on découvre un détail incroyable. Il porte des sabots en bois.
Oui, des sabots en bois.
Ça, ça m'a vraiment surprise. On a l'image du gendarme avec ses bottes impeccables, et là, on le voit avec des sabots. Ça veut dire que leur quotidien était bien plus rural qu'on ne l'imagine.
C'est exactement ça. L'auteur décrit précisément la tenue. Bonnet de police, veston en coutil et ses fameux sabots.
C'est la tenue de travail, pour soigner les chevaux, nettoyer l'écurie. Ça nous plonge dans une réalité très terre-à-terre, très rustique.
Ça casse le mythe.
Complètement. Le gendarme n'était pas qu'un homme d'armes, c'était aussi un palefrenier.
Et l'article crée un contraste formidable avec d'autres cartes postales, prises à Rodez cette fois. Là, on voit des gendarmes en grande tenue de service. Le képi, la tunique impeccable, les aiguillettes blanches. Oui, et ils escortent des criminels célèbres de l'époque vers le tribunal. On passe du sabot en bois au ceinturon verni. Cette dualité, elle est au cœur de leur métier. D'un côté, le travail humble, invisible, de la caserne. De l'autre, l'incarnation de l'ordre public, une fonction presque théâtrale lors des grands procès. Le même homme pouvait nettoyer le crottin le matin et escorter un assassin l'après-midi.
Quand on rassemble tous ces éléments, l'évolution des brigades, les actes de bravoure, les drames et même ces détails vestimentaires, on se rend compte que ce petit bulletin local nous a offert une fresque humaine incroyable. On est parti d'une loi de 1798 pour arriver à la texture de la vie d'un homme.
C'est la grande réussite du travail de Raymond Duplan. Il démontre comment une institution nationale est en fait la somme d'histoires locales. Une histoire façonnée par la géographie, les événements, les drames d'un territoire, en donnant un nom et une histoire aux gendarmes Rivière, au lieutenant Vimard ou à Paul Andrieux, il les sort de l'anonymat de l'uniforme.
L'histoire de la gendarmerie en Aveyron devient le récit de leur vie. C'est une très belle synthèse.
Et cela ouvre une dernière porte de réflexion. L'article s'arrête en 1975.
C'est vrai.
Ce qui nous laisse avec une question fascinante. Comment les 50 années qui ont suivi ont-elles à leur tour transformé la vie de ces gendarmes en Aveyron ? Avec l'arrivée de l'informatique, des tests ADN, des portables, mais aussi de nouvelles formes de criminalité, de nouvelles tensions. Quelle histoire raconterait un article sur les brigades de l'Aveyron de 1975 à aujourd'hui ? C'est une suite qui reste à écrire.